Deuxième partie, chapitre 5. Mon Dieu, que t'ai-je fait? Pourquoi m'accables-tu? Dès l'enfance, tu m'as donné pour lot la misère, la lutte. J'ai lutté sans me plaindre. J'ai aimé ma misère. J'ai tâché de conserver pure cette âme que tu m'avais donnée, de sauver ce feu que tu avais mis en moi. Seigneur, c'est toi qui t'acharnes à détruire ce que tu avais créé. Tu as éteint ce feu, tu as souillé cette âme, tu m'as dépouillé de tout ce qui me faisait vivre. J'avais deux seuls trésors au monde, mon ami et mon âme. Je n'ai plus rien, tu m'as tout pris. Un seul être était mien dans le désert du monde, tu me l'as enlevé. Nos cœurs n'en faisaient qu'un, tu les as déchirés. Tu ne nous as fait connaître la douceur d'être ensemble que pour mieux nous faire connaître l'horreur de nous être perdus. Tu as creusé le vide autour de moi, en moi. J'étais brisé, malade, sans volonté, sans armes, pareil à un enfant qui pleure dans la nuit. Tu as choisi cette heure pour me frapper. Tu es venu à pas sourds, par derrière, comme un traître, et tu m'as poignardé. Tu as lâché sur moi la passion, ton chien féroce. J'étais sans force, tu le savais, et je ne pouvais lutter. Elle m'a terrassé, elle a tout saccagé en moi, tout sali, tout détruit. J'ai le dégoût de moi. Si je pouvais au moins crier ma douleur et ma honte, ou bien les oublier dans le torrent de la force qui crée. Mais ma force est brisée, ma création desséchée. Je suis un arbre mort. Mort, que ne le suis-je. Ô Dieu, délivre-moi, romps ce corps et cette âme, arrache-moi à la terre, déracine-moi de la vie, ne me laisse pas sans fin me débattre dans la fosse. Je crie grâce, tue-moi. Ainsi la douleur de Christophe appelait un Dieu à qui sa raison ne croyait pas. Il s'était réfugié dans une ferme isolée du Jura suisse. La maison, adossée au bois, se dissimulait dans le repli d'un haut plateau bossué. Des renflements de terrain la protégeaient des vents du nord. Par devant, des vallées des prairies, de longues pentes boisées. La roche, brusquement, s'arrêtait, tombait à pic. Des sapins contorsionnés s'accrochaient au bord. Des hêtres aux larges bras se rejetaient en arrière. Ciel éteint. Vie disparue. Une étendue abstraite aux lignes effacées. Tout dormait sous la neige. Seule la nuit dans la forêt, les renards glapissaient. C'était la fin de l'hiver. Hiver tardif. Interminable hiver. Lorsqu'il semblait fini, il recommençait toujours. Cependant, depuis une semaine, la vieille terre engourdie sentait son cœur renaître. Un premier printemps trompeur s'insinuait dans l'air et sous l'écorce glacée. Des branches de hêtres étendues comme des ailes qui planent, la neige s'égouttait. Au travers du manteau blanc qui couvrait les prairies, déjà quelques fils d'herbe d'un vert tendre pointaient. Autour de leurs fines aiguilles, par les déchirures de la neige, comme par de petites bouches, le sol noir et humide respirait. Quelques heures par jour, la voix de l'eau engourdie dans sa robe de glace de nouveau murmurait. Dans le squelette des bois, quelques oiseaux sifflaient de clairs chants aigrelets. Christophe ne remarquait rien. Tout était le même pour lui. Il tournait indéfiniment dans sa chambre, où il marchait dehors. Impossible de rester en repos. Son âme était écartelée par les démons intérieurs. Il s'entre-déchirait. La passion, refoulée, continuait de battre furieusement les parois de la maison. Le dégoût de la passion n'était pas moins enragé. Ils se mordaient à la gorge. Dans leur lutte, ils lacéraient le cœur. Et c'était en même temps le souvenir d'Olivier, le désespoir de sa mort, la hantise de créer qui ne pouvait se satisfaire, l'orgueil qui se cabrait devant le trou du néant. Tous les diables en lui. Pas un instant de répit. Ou, s'il se produisait une menteuse accalmie, si les flots soulevés retombaient un moment, il se retrouvait seul, et il ne retrouvait plus rien de lui, pensée, amour, volonté, tout avait été tué. Créer, c'était le seul recours. Abandonner au flot l'épave de sa vie, se sauver à la nage dans le rêve de l'art. Créer, il le voulait, il ne le pouvait plus. Christophe n'avait jamais eu de méthode de travail. Quand il était fort et sain, il était plutôt gêné de sa surabondance qu'inquiet de la voir s'appauvrir. Il suivait son caprice. Il travaillait à sa fantaisie, au hasard des circonstances, sans aucune règle fixe. En réalité, il travaillait en tout lieu, à tout moment. Son cerveau ne cessait d'être occupé. Bien des fois, Olivier, moins riche et plus réfléchi, l'avait averti. « Prends garde, tu te fies trop à ta force. Torrent des montagnes, plein aujourd'hui, demain peut-être à sec. Un artiste doit capter son génie. Il ne lui permet pas de s'éparpiller au hasard. Canalise ta force. Contrains-toi à des habitudes, à une hygiène de travail quotidien, à heure fixe. Elles sont aussi nécessaires à l'artiste que l'habitude des gestes et des pas solitaires à l'homme qui doit se battre. Viennent les moments de crise, et il en vient toujours, cette armature de fer empêche l'âme de tomber. Je sais bien, moi, si je ne suis pas mort, c'est qu'elle m'a sauvé. » Mais Christophe riait et disait « Bon pour toi, mon petit, pas de danger que je perde jamais le goût de vivre. J'ai trop bon appétit. » Olivier haussait les épaules. « Le trop amène le trop peu. Il n'est pas de pire malade que les trop bien portants. » La parole d'Olivier se vérifiait maintenant. Après la mort de l'ami, la source de vie intérieure ne s'était pas tout de suite tarie, mais elle était devenue étrangement intermittente. Elle coulait par brusques gorgées, puis se perdait sous terre. Christophe n'y prenait pas garde. Que lui importait? Sa douleur et la passion naissante absorbaient sa pensée. Mais après qu'eut passé l'ouragan, lorsqu'il chercha de nouveau la fontaine pour y boire, il ne trouva plus rien. Le désert. Pas un filet d'eau. L'âme était desséchée. En vain, il voulut creuser le sable, faire jaillir l'eau des nappes souterraines, créer à tout prix. La machine de l'esprit refusait d'obéir. Il ne pouvait pas évoquer l'aide de l'habitude, l'allié fidèle, qui, lorsque toutes les raisons de vivre nous ont fui, seule, tenace et constante, demeure à nos côtés, et ne dit pas un mot, et ne fait pas un geste, les yeux fixes, les lèvres muettes, mais de sa main très sûre qui n'a jamais la fièvre, nous conduit au travers du défilé dangereux, jusqu'à ce que soit revenue la lumière du jour et le goût à la vie. Christophe était sans aide, et sa main ne rencontrait aucune main dans la nuit. Il ne pouvait plus remonter à la lumière du jour. Ce fut l'épreuve suprême. Alors il se sentit aux limites de la folie. Tantôt une lutte absurde et démente contre son cerveau, des obsessions de maniaque, une hantise des nombres. Il comptait les planches du parquet, les arbres de la forêt. Des chiffres et des accords, dont le choix lui échappait, se livraient dans sa tête des batailles rangées. Tantôt un état de prostration comme un mort. Personne ne s'occupait de lui. Il habitait une aile de la maison, à l'écart. Il faisait lui-même sa chambre. Il ne la faisait pas tous les jours. On lui déposait sa nourriture en bas. Il ne voyait pas un visage humain. Son hôte, un vieux paysan, taciturne et égoïste, ne s'intéressait pas à lui. Que Christophe mangeât ou ne mangeât point, c'était son affaire. À peine prenait-on garde si le soir Christophe était rentré. Une fois, il se trouva perdu dans la forêt, enfoncé dans la neige jusqu'aux cuisses. Il s'en fallut de peu qu'il ne pût revenir. Il cherchait à se tuer de fatigue pour ne pas penser. Il n'y réussissait pas. Seulement, de loin en loin, quelques heures de sommeil harassées. Un seul être vivant semblait se soucier de son existence. Un vieux chien Saint-Bernard, qui venait poser sa grosse tête aux yeux sanglants sur les genoux de Christophe, lorsque Christophe était assis sur le banc devant la maison. Ils se regardaient longuement. Christophe ne le repoussait pas. Comme le maladif Goethe, ses yeux ne l'inquiétaient point. Il n'avait pas envie de leur crier « Va-t'en, tu auras beau faire, larve, tu ne me happeras point. » Il ne demandait qu'à se laisser prendre par ses yeux suppliants et somnolents, à leur venir en aide. Il sentait là une âme emprisonnée qu'il implorait. Dans ce moment où il était détrempé par la souffrance, arraché tout vivant à la vie, châtré de l'égoïsme humain, il apercevait les victimes de l'homme, le champ de bataille où l'homme triomphe, sur le carnage des autres êtres. Et son cœur était plein de pitié et d'horreur. Même au temps où il était heureux, il avait toujours aimé les bêtes. Il ne pouvait supporter la cruauté à leur égard. Il avait pour la chasse une aversion qu'il n'osait pas exprimer, par crainte du ridicule. Peut-être n'osait-il pas en convenir avec lui-même, mais cette répulsion était la cause secrète de l'éloignement qu'il éprouvait pour certains hommes. Jamais il n'aurait pu accepter pour ami un homme qui tuait un animal par plaisir. Nulle sentimentalité. Il savait mieux que personne que la vie repose sur une somme de souffrance et de cruauté infinie. L'on ne peut vivre sans faire souffrir. Il ne s'agit pas de se fermer les yeux et de se payer de mots. Il ne s'agit pas non plus de conclure qu'il faut renoncer à la vie et de pleurnicher comme un enfant. Non. S'il n'est pas aujourd'hui d'autre moyen de vivre, il faut tuer pour vivre. Mais celui qui tue pour tuer est un misérable inconscient, un misérable tout de même. L'effort incessant de l'homme doit être de diminuer la somme de la souffrance et de la cruauté. C'est le premier devoir. Ses pensées, dans la vie ordinaire, restaient ensevelies au fond du cœur de Christophe. Il ne voulait pas y songer. À quoi bon? Qui pouvait-il? Il lui fallait être Christophe. Il lui fallait accomplir son œuvre, vivre à tout prix, vivre aux dépens des plus faibles. Ce n'était pas lui qui avait fait l'univers. N'y pensons pas, n'y pensons pas. Mais après que le malheur l'eut précipité, lui aussi, dans les rangs des vaincus, il fallut bien qu'il y pensât. Naguère, il avait blâmé Olivier, qui s'enfonçait dans l'inutile remords et la compassion vaine pour les malheurs que les hommes souffrent et font souffrir. Il allait plus loin que lui, à présent. Avec l'emportement de sa puissante nature, il pénétrait jusqu'au fond de la tragédie de l'univers. Il souffrait de toutes les souffrances du monde. Il était comme un écorché. Il ne pouvait plus songer aux animaux sans un frémissement d'angoisse. Il lisait dans les regards des bêtes, il lisait une âme comme la sienne, une âme qui ne pouvait pas parler. Mais les yeux criaient pour elle, « Que vous ai-je fait? Pourquoi me faites-vous mal ?» Le spectacle le plus banal qu'il avait vu 100 fois, un petit veau qui se lamentait, enfermé dans une caisse à claire-voie, ses gros yeux noirs saillants, dont le blanc est bleuâtre, ses paupières roses, ses cils blancs, ses touffes blanches frisées sur le front, son museau violet, ses genoux cagneux, un agneau qu'un paysan emportait par les 4 pattes liées ensemble, la tête pendante, tâchant de se relever, gémissant comme un enfant, et bêlant et tendant sa langue grise, des poules empilées dans un panier, au loin, les hurlements d'un cochon qu'on saignait. Sur la table de la cuisine, un poisson que l'on vide. Il ne pouvait plus le supporter. Les tortures sans nom que l'homme inflige à ses innocents lui étreignaient le cœur. Prêtez à l'animal une lueur de raison, imaginez le rêve affreux qu'est le monde pour lui. Ces hommes indifférents, aveugles et sourds, qui l'égorgent, l'éventrent, le tronçonnent, le cuisent vivant, s'amuse de ces contorsions de douleur. Est-il rien de plus atroce parmi les cannibales d'Afrique? La souffrance des animaux a quelque chose de plus intolérable encore pour une conscience libre que la souffrance des hommes, car celle-ci, du moins, il est admis qu'elle est un mal et que qui la cause est criminel. Mais des milliers de bêtes sont massacrées inutilement chaque jour sans l'ombre d'un remords. Qui y ferait allusion se rendrait ridicule. Et cela, c'est le crime irrémissible. À lui seul, il justifie tout ce que l'homme pourra souffrir. Il crie vengeance contre le genre humain. Si Dieu existe et le tolère, il crie vengeance contre Dieu. S'il existe un Dieu bon, la plus humble des âmes vivantes doit être sauvée. Si Dieu n'est bon que pour les forts, s'il n'y a pas de justice pour les misérables, pour les êtres inférieurs offerts en sacrifice à l'humanité, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de justice. Hélas, les carnages accomplis par l'homme sont si peu de choses, eux-mêmes, dans la tuerie de l'univers. Les animaux s'entre-dévorent. Les plantes paisibles, les arbres muets sont entre eux des bêtes féroces. Sérénité des forêts, lieu commun de rhétorique pour les littérateurs qui ne connaissent la nature qu'au travers de leurs livres. Dans la forêt toute proche, à quelques pas de la maison, se livraient des luttes effrayantes. Les hêtres assassins se jetaient sur les sapins au beau corps rosé, enlaçaient leurs tailles sveltes de colonnes antiques, les étouffaient. Ils se ruaient sur les chênes, ils les brisaient, ils s'en forgeaient des béquilles. Les hêtres brillaraient aux 100 bras, 10 arbres dans un arbre. Ils faisaient la mort autour d'eux. Et quand, faute d'ennemis, ils se rencontraient ensemble, ils se mêlaient avec rage, se perçant, se soudant, se tordant, comme des monstres antédiluviens. Plus bas dans la forêt, les acacias, partis de la lisière, étaient entrés dans la place, attaquaient la sapinière, étreignaient et griffaient les racines de l'ennemi, les empoisonnaient de leurs sécrétions. Lutte à mort où le vainqueur s'emparait à la fois de la place et des dépouilles du vaincu. Alors les petits monstres achevaient l'œuvre des grands. Les champignons, venus entre les racines, suçaient l'arbre malade qui se vidait peu à peu. Les fourmis noires broyaient le bois qui pourrissait. Des millions d'insectes invisibles rongeaient, perforaient, réduisaient en poussière ce qui avait été la vie. Et le silence de ces combats. Ô paix de la nature, masque tragique qui recouvre le visage douloureux et cruel de la vie. Christophe coulait à pic, mais il n'était pas homme à se laisser noyer sans lutte, les bras collés au corps. Il avait beau vouloir mourir, il faisait tout ce qu'il pouvait pour vivre. Il était de ceux, comme disait Mozart, qui veulent agir jusqu'à ce qu'enfin il n'y ait plus moyen de rien faire. Il se sentait disparaître. Et il cherchait dans sa chute, battant des bras, à droite, à gauche, un appui où s'accrocher. Il crut l'avoir trouvé. Il venait de se rappeler le petit enfant d'Olivier. Sur le champ, il reporta sur lui toute sa volonté de vivre. Il s'y agrippa. Oui, il devait le rechercher, le réclamer, l'élever, l'aimer, prendre la place du père, faire revivre Olivier dans son fils. Dans son égoïste douleur, comment n'y avait-il pas songé? Il écrivit à Cécile, qui avait la garde de l'enfant. Il attendit fiévreusement la réponse. Tout son être se tendait vers cette unique pensée. Il se forçait au calme. Une raison d'espérer lui restait. Il avait confiance. Il connaissait la bonté de Cécile. La réponse lui vint. Cécile disait que, 3 mois après la mort d'Olivier, une dame en deuil s'était présentée chez elle et lui avait dit « Rendez-moi mon enfant. » C'était celle qui avait abandonné naguère son enfant et Olivier, Jacqueline, mais si changée qu'on avait peine à la reconnaître. Sa folie d'amour n'avait pas duré. Elle s'était lassée plus vite de l'amant que l'amant ne s'était lassé d'elle. Elle était revenue brisée, dégoûtée, vieillie. Le scandale trop bruyant de son aventure lui avait fermé beaucoup de portes. Les moins scrupuleux n'étaient pas les moins sévères. Sa mère elle-même lui avait témoigné un dédain si offensant que Jacqueline n'avait pu rester chez elle. Elle avait vu à fond l'hypocrisie du monde. La mort d'Olivier avait achevé de l'accabler. Elle semblait si abattue que Cécile ne s'était pas cru le droit de lui refuser ce qu'elle réclamait. C'était bien dur de rendre un petit être qu'on s'était habitué à regarder comme sien. Mais comment être plus dur encore pour quelqu'un qui a plus de droits que vous et qui est plus malheureux? Elle eût voulu écrire à Christophe, lui demander conseil. Mais Christophe n'avait jamais répondu aux lettres qu'elle lui avait écrites. Elle ne savait pas son adresse. Elle ne savait même pas s'il était vivant ou mort. La joie vient, elle s'en va. Que faire? Se résigner. L'essentiel était que l'enfant fût heureux et aimé. La lettre arriva le soir. Un retour d'hiver tardif avait ramené la neige. Toute la nuit, elle tomba. Dans la forêt, où déjà les feuilles nouvelles étaient apparues, les arbres sous le poids craquaient et se rompaient. Une bataille d'artillerie. Christophe, seul dans sa chambre, sans lumière, au milieu des ténèbres phosphorescentes, écoutant la forêt tragique, sursautait à chaque coup. Et il était pareil à un de ces arbres qui plient sous le fait et craquent. Il se disait « Maintenant, tout est fini ». La nuit passa, le jour vint. L'arbre ne s'était pas rompu. Toute la journée nouvelle et la nuit qui suivit, et les jours et les nuits d'après, L'arbre continua de plier et de craquer, mais il ne se rompit point. Christophe n'avait plus aucune raison de vivre, et il vivait. Il n'avait plus aucun motif de lutter, et il luttait, pied à pied, corps à corps, avec l'ennemi invisible qui lui broyait l'échine. Jacob avec l'ange. Il n'attendait rien de la lutte, il n'attendait rien de la fin, et il luttait toujours. Et il criait, « Mais terrasse-moi donc, pourquoi ne me terrasses-tu pas ?» Les jours passèrent. Christophe sortit de là, vidé de sa vie. Il persistait pourtant à se tenir debout, il sortait, il marchait. Heureux ceux qu'une race forte soutient dans les éclipses de leur vie. Les jambes du père et du grand-père portaient le corps du fils prêt à s'écouler. La poussée des robustes ancêtres soulevait l'âme brisée, comme le cavalier mort que son cheval emporte. Il allait par un chemin de crête entre deux ravins. Il descendait l'étroit sentier aux pierres aiguës, entre lesquelles serpentaient les racines noueuses de petits chênes rabougris. Sans savoir où il allait, et plus sûr de ses pas que si une volonté lucide l'eût mené. Il n'avait pas dormi. À peine avait-il mangé depuis plusieurs jours. Il avait un brouillard devant les yeux. Il descendait vers la vallée. C'était la semaine de Pâques. Jour voilé. Le dernier assaut de l'hiver était vaincu. Le chaud printemps couvait. Des villages d'en bas, les cloches montèrent. De l'un d'abord, nid blotti dans un creux, au pied de la montagne, avec ses toits de chaume bariolés, noirs et blonds, revêtu de mousse épaisse comme du velours, puis d'un autre, invisible, sur l'autre versant du mont, puis d'autres dans la plaine au-delà d'une rivière, et le bourdon très loin d'une ville qui se perdait dans la brume. Christophe s'arrêta, son cœur était prêt à défaillir. Ses voix semblaient lui dire « Viens avec nous, ici est la paix, ici la douleur est morte. » Morte avec la pensée. Nous berçons l'âme si bien qu'elle s'endort dans nos bras. Viens et repose-toi, tu ne t'éveilleras plus. » Comme il se sentait là, qu'il eût voulu dormir, mais il secoua la tête et dit, « Ce n'est pas la paix que je cherche, c'est la vie. » Il se remit en marche. Il parcourait des lieux sans s'en apercevoir. Dans son état de faiblesse hallucinée, les sensations les plus simples avaient des résonances inattendues. Sa pensée projetait sur la terre et dans l'air des lueurs fantastiques. Une ombre qui courait devant lui sans qu'il en vît la cause, sur la route blanche et déserte au soleil, le fit tressaillir. Au débouché d'un bois, il se trouva près d'un village. Il rebroussa chemin, la vue des hommes lui faisait mal. Il ne put éviter pourtant de passer près d'une maison isolée, au-dessus du hameau. Elle était adossée au flanc de la montagne. Elle ressemblait à un sanatorium. Un grand jardin, exposé au soleil, l'entourait. Quelques êtres erraient à pas incertains par les allées sablées. Christophe n'y prit pas garde, mais à un détour du sentier, il se trouva face à face avec un homme aux yeux pâles, figure grasse et jaune, qui regardait devant lui, affaissé sur un banc, au pied de deux peupliers. Un autre homme était assis auprès. Ils se taisaient tous deux. Christophe les dépassa. Mais après quatre pas, il s'arrêta. Ses yeux lui étaient connus. Il se retourna. L'homme n'avait pas bougé. Il continuait de fixer, immobile, un objet devant lui. Mais son compagnon regardait Christophe, qui lui fit signe. Il vint. « Qui est-ce ? » demanda Christophe. « Un pensionnaire de la maison de santé, » dit l'homme, montrant l'habitation. « Je crois le connaître, » dit Christophe. « C'est possible, » fit l'autre. Il était un écrivain très connu en Allemagne. Christophe dit un nom. Oui, c'était bien ce nom-là. Il l'avait vu jadis au temps où il écrivait dans la revue de Mannheim. Alors, ils étaient ennemis. Christophe ne faisait que débuter, l'autre était déjà célèbre. C'était un homme fort, sûr de lui, méprisant de tout ce qui n'était pas lui, un romancier fameux dont l'art réaliste et sensuel dominait la médiocrité des productions courantes. Christophe, qui le détestait, ne pouvait s'empêcher d'admirer la perfection de cet art matériel, sincère et borné. « Ça l'a pris il y a un an, » dit le gardien. « On l'a soigné, on l'a cru guéri, il est reparti chez lui. Et puis ça l'a repris. Un soir, il s'est jeté de sa fenêtre. Dans les premiers temps qu'il était ici, il s'agitait et il criait. Maintenant, il est bien tranquille. Il passe ses journées, comme vous le voyez, assis. « Que regarde-t-il ? » dit Christophe. Il s'approcha du banc. Il contempla avec pitié la blême figure du vaincu, les grosses paupières qui retombaient sur les yeux. L'un d'eux était presque fermé. Le fou ne semblait pas savoir que Christophe était là. Christophe l'appela par son nom, lui prit la main molle et humide qui s'abandonnait comme une chose morte. Il n'eut pas le courage de la garder dans ses mains. L'homme leva un instant vers Christophe ses yeux chavirés, puis se remit à regarder devant lui avec son sourire hébété. Christophe demanda « Qu'est-ce que vous regardez ?» L'homme immobile dit à mi-voix « J'attends. »« Quoi ?»« La résurrection. » Christophe tressota. Il partit précipitamment. La parole l'avait pénétré d'un trait de feu. Il s'enfonça dans la forêt. Il remonta la pente dans la direction de sa maison. Dans son trouble, il perdit le chemin. Il se trouva au milieu des grands bois de sapins. Ombre et silence. Quelques taches de soleil d'un blond roux, venues on ne savait d'où, tombaient dans l'épaisseur de l'ombre. Christophe était hypnotisé par ces plaques de lumière. Tout semblait nuit autour. Il allait sur le tapis d'aiguilles, butant contre les racines qui saillaient comme des veines gonflées. Au pied des arbres, pas une plante, pas une mousse. Dans les branches, pas un chant d'oiseau. Les rameaux du bas étaient morts. Toute la vie s'était réfugiée en haut où était le soleil. Bientôt, cette vie même s'éteignit. Christophe entra dans une partie du bois que rongeait un mal mystérieux. Des sortes de lichens longs et fins, comme des toiles d'araignée, enveloppaient de leurs résilles les branches de sapin rouge, les ligotaient des pieds à la tête, passaient d'un arbre à l'autre, étouffaient la forêt. On eût dit des algues sous-marines aux tentacules sournoises. Et c'était le silence des profondeurs océaniques. En haut, le soleil pâlissait. Des brouillards qui s'étaient insidieusement glissés au travers de la forêt morte cernèrent Christophe. Tout disparut, plus rien. Pendant une demi-heure, Christophe erra au hasard dans le réseau de brumes blanches qui peu à peu se resserrait, noircissait, lui entrait dans la gorge. Il croyait marcher droit et il tournait en cercle sous les gigantesques toiles d'araignée qui pendaient des sapins étouffés. Le brouillard, en les traversant, il laissait attacher des gouttes grelottantes. Enfin, les mailles se détendirent, une trouée se fit, et Christophe réussit à sortir de la forêt sous-marine. Il retrouva les bois vivants et la lutte silencieuse des sapins et des hêtres. Mais c'était toujours la même immobilité. Ce silence, qui couvait depuis des heures, angoissait. Christophe s'arrêta pour l'entendre. Soudain, ce fut au loin une houle qui venait. Un coup de vent précurseur se levait du fond de la forêt. Comme un cheval au galop, il arriva sur les cimes des arbres qui ondulèrent, tel le dieu de Michel-Ange qui passe dans une trombe. Il passa au-dessus de la tête de Christophe. La forêt et le cœur de Christophe frémirent. C'était l'annonciateur. Le silence retomba. Christophe, en proie à une terreur sacrée, hâtivement rentra les jambes flageolantes. Sur le seuil de la maison, comme un homme poursuivi, il jeta un coup d'œil inquiet derrière lui. La nature semblait morte. Les forêts qui couvraient les pentes de la montagne dormaient, appesanties sous une lourde tristesse. L'air immobile avait une transparence magique. Nul bruit. Seule la musique funèbre d'un torrent, l'eau qui ronge le roc, sonnait le glas de la terre. Christophe se coucha avec la fièvre. Dans l'étable voisine, les bêtes, inquiètes comme lui, s'agitaient. La nuit. Il s'était assoupi. Dans le silence, la houle de nouveau, lointaine, se leva. Le vent revenait, en ouragan cette fois. Le feune du printemps qui réchauffe de sa brûlante haleine la terre frileuse qui dort encore. Le feune qui fond les glaces et amasse les pluies fécondes. Il grondait comme le tonnerre, de l'autre côté du ravin, dans les forêts. Il se rapprocha, s'enfla, monta les pentes au pas de charge. La montagne entière mugit. Dans l'étable, un cheval hennit et les vaches meuglèrent. Christophe, dressé sur son lit, les cheveux hérissés, écoutait. La rafale arriva, ulula, fit grincer les girouettes, fit voler les tuiles du toit, fit trembler la maison. Un pot de fleurs tomba et se brisa. La fenêtre de Christophe, mal fermée, s'ouvrit avec fracas, et le vent chaud entra. Christophe le reçut en pleine face et sur sa poitrine nue. Il sauta du lit, la bouche ouverte, suffoqué. C'était comme si dans son âme vide se ruait le Dieu vivant. La résurrection. L'air entrait dans sa gorge, le flot de vie nouvelle le pénétrait jusqu'aux entrailles. Il se sentait éclaté, il voulait crier, crier de douleur et de joie, et il ne sortait de sa bouche que des sons inarticulés. Il trébuchait, il frappait les murs de ses bras au milieu des papiers que l'ouragan faisait voler. Il s'abattit au milieu de la chambre en criant « Oh, toi, toi, tu es enfin revenu. Tu es revenu, tu es revenu. Oh, toi que j'avais perdu. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour accomplir ma tâche que tu as abandonnée. Quelle tâche ? Combattre. Qu'as-tu besoin de combattre ? N'es-tu pas le maître de tout ? Je ne suis pas le maître. N'es-tu pas tout ce qui est ? Je ne suis pas tout ce qui est. Je suis la vie qui combat le néant. Je ne suis pas le néant. Je suis le feu qui brûle dans la nuit. Je ne suis pas la nuit. Je suis le combat éternel. Et nul destin éternel ne plane sur le combat. Je suis la volonté libre qui lutte éternellement. Lutte et brûle avec moi. Je suis vaincu, je ne suis plus bon à rien. Tu es vaincu, tout te semble perdu, d'autres seront vainqueurs. Ne pense pas à toi, pense à ton armée. Je suis seul, je n'ai que moi, et je n'ai pas d'armée. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas à toi. Tu es une de mes voix, tu es un de mes bras. Parle et frappe pour moi. Mais si le bras est rompu, si la voix est brisée, moi je reste debout. Je combats par d'autres voix, d'autres bras que les tiens. Vaincu, tu fais partie de l'armée qui n'est jamais vaincue. Souviens-toi, et tu vaincras jusque dans ta mort. Seigneur, je souffre tant. Crois-tu que je ne souffre pas aussi? Depuis les siècles, la mort me traque et le néant me guette. Ce n'est qu'à coup de victoire que je me ferai le chemin. Le fleuve de la vie est rouge de mon sang. Combattre? Toujours combattre? Il faut toujours combattre. Dieu combat lui aussi. Dieu est un conquérant. Il est un lion qui dévore. Le néant l'enserre et Dieu le terrasse. Et le rythme du combat fait l'harmonie suprême. Cette harmonie n'est pas pour tes oreilles mortelles. Il suffit que tu saches qu'elle existe. Fais ton devoir en paix et laisse faire au Dieu. Je n'ai plus de force. Chante pour ceux qui sont forts. Ma voix est brisée. Prie. Mon cœur est souillé. Arrache-le. Prends le mien. Seigneur, ce n'est rien de s'oublier soi-même, de rejeter son âme morte. Mais puis-je rejeter mes morts? Puis-je oublier mes aimés? Abandonne-les, morts avec ton âme morte. Tu les retrouveras vivants avec mon âme vivante. Ô toi qui m'as laissé, me laisseras-tu encore? Je te laisserai encore, n'en doute point. C'est à toi de ne me plus laisser. Mais si ma vie s'éteint, allume-en d'autres. Et si la mort est en moi? La vie est ailleurs. Va, ouvre-lui tes portes. Insensé qui t'enferme dans ta maison en ruine, sors de toi, il est d'autres demeures. Ô vie, je vois, je te cherchais en moi dans mon âme vide et close. Mon âme se brise, par les fenêtres de mes blessures, l'air afflue, je respire, je te retrouve, ô vie, je te retrouve, tais-toi et écoute. Et Christophe entendit, comme un murmure de source, le chant de la vie qui remontait en lui. Penché sur le bord de sa fenêtre, il vit la forêt, morte hier, qui, dans le vent et le soleil, bouillonnait, soulevée comme la mer. Sur l'échine des arbres, des vagues de vent, frissons de joie, passaient. Et les branches ployées tendaient leurs bras d'extase vers le ciel éclatant. Et le torrent sonnait comme un rire de cloche. Le même paysage, hier dans le tombeau, était ressuscité. La vie venait d'y rentrer, en même temps que l'amour dans le cœur de Christophe. Miracle de l'âme que la grâce a touché. Elle se réveille à la vie. et tout revit autour d'elle. Le cœur se remet à battre. Les fontaines taries recommencent à couler. Et Christophe rentra dans la bataille divine. Comme ses propres combats, comme les combats des hommes se perdent au milieu de cette mêlée gigantesque où pleuvent les soleils comme des flocons de neige que l'ouragan balaye. Il avait dépouillé son âme. Ainsi que dans ses rêves suspendus dans l'espace, il planait au-dessus de lui-même. Il se voyait d'en haut, dans l'ensemble des choses. Et d'un regard lui apparut le sens de ses souffrances. Ses luttes faisaient partie du grand combat des mondes. Sa déroute était un épisode aussitôt réparé. Il combattait pour tous, tous combattaient pour lui. Il partageait ses peines, il partageait leur gloire. Compagnons, ennemis, marchez, piétinez-moi, que je sente sur mon corps passer les roues des canons qui vaincront. Je ne pense pas au fer qui me laboure la chair. Je ne pense pas aux pieds qui me foulent la tête. Je pense à mon vengeur, au maître, au chef de l'innombrable armée. Mon sang est le ciment de sa victoire future. Dieu n'était pas pour lui le créateur impassible, le Néron qui contemple du haut de sa tour d'airain l'incendie de la ville que lui-même alluma. Dieu souffre. Dieu combat. Avec ceux qui combattent et pour tous ceux qui souffrent. Car il est la vie, la goutte de lumière qui, tombée dans la nuit, s'étend et boit la nuit. Mais la nuit est sans borne, et le combat divin ne s'arrête jamais, et nul ne peut savoir quelle en sera l'issue. Symphonie héroïque, où les dissonances mêmes qui se heurtent et se mêlent forment un concert serein. Comme la forêt des hêtres qui livre dans le silence des combats furieux, ainsi la vie guerroie dans l'éternelle paix. Ces combats, cette paix, résonnaient dans Christophe. Il était un coquillage où l'océan bruit. Des appels de trompettes, des rafales de sons, des cris d'épopée passaient sur l'envolée de rythmes souverains. Car tout se muait en son dans cette âme sonore. Elle chantait la lumière, elle chantait la nuit, et la vie, et la mort. Pour ceux qui étaient vainqueurs, pour lui-même, vaincu. Elle chantait, tout chantait. Elle n'était plus que chant. Comme les pluies de printemps, les torrents de musique s'engouffraient dans ce sol crevassé par l'hiver. Honte, chagrin, amertume révélaient à présent leur mystérieuse mission. Elles avaient décomposé la terre, et elles l'avaient fertilisée. Le soc de la douleur, en déchirant le cœur, avait ouvert de nouvelles sources de vie. La lande refleurissait, mais ce n'étaient plus les fleurs de l'autre printemps. Une autre âme était née. Elle naissait à chaque instant, car elle n'était pas encore ossifiée, comme les âmes parvenues au terme de leur croissance, les âmes qui vont mourir. Elle n'était pas la statue, mais le métal en fusion. Chaque seconde faisait d'elle un nouvel univers. Christophe ne songeait pas à fixer ses limites. Il s'abandonnait à cette joie de l'homme qui, rejetant derrière lui le poids de son passé, part pour un long voyage, le sang jeune, le cœur libre, et aspire l'air marin et croit que le voyage n'aura jamais de fin. Il était repris par la force créatrice qui coule dans le monde, et la richesse du monde le remplissait d'extase. Il aimait, il était son prochain comme lui-même, et tout lui était prochain. De l'herbe qu'il foulait à la main qu'il serrait. Un arbre, l'ombre d'un nuage sur la montagne, l'haleine des prairies, la ruche du ciel nocturne, bourdonnante des essaims de soleil, c'était un tourbillon de sang. Il ne cherchait pas à parler ni penser, rire, pleurer, se fondre dans cette merveille vivante. Écrire, pourquoi écrire? Est-ce qu'on peut écrire l'indicible? Mais que cela fût possible ou non, il fallait qu'il écrivît. C'était sa loi. Les idées le frappaient, par éclairs, en quelque lieu qu'il fût. Impossible d'attendre. Alors il écrivait, avec n'importe quoi, sur n'importe quoi. Et il eût été incapable, souvent, de dire ce que signifiaient ces phrases qui jaillissaient de lui. Et voici que pendant qu'il écrivait, d'autres idées lui venaient, d'autres. Il écrivait, il écrivait sur ses manches de chemise, sur la coiffe de son chapeau. Si vite qu'il écrivit, sa pensée allait plus vite. Il devait user d'une sorte de sténographie. Ce n'étaient là que des notes informes. La difficulté commença lorsqu'il voulut couler ses idées dans les formes musicales ordinaires. Il fit la découverte qu'aucun des moules anciens ne pouvait leur convenir. S'il voulait fixer ses visions avec fidélité, il devait commencer par oublier tout ce qu'il avait jusque-là entendu ou écrit, faire table rase de tout formalisme appris, de la technique traditionnelle, rejeter ses béquilles de l'esprit impotent, se lit tout fait pour la paresse de ceux qui, fuyant la fatigue de penser par eux-mêmes, se couchent dans la pensée des autres. Naguère, lorsqu'il se croyait arrivé à la maturité de sa vie et de son art, en fait il n'était qu'au bout d'une de ses vies, il s'exprimait dans une langue préexistante à sa pensée. Son sentiment se soumettait à une logique de développement préétablie qui, d'avance, lui dictait une partie de ses phrases et le menait docilement, par les chemins frayés, au terme convenu où le public l'attendait. À présent, plus de doute, c'était au sentiment de la frayer. L'esprit n'avait qu'à suivre. Son rôle n'était même plus de décrire la passion. Il devait faire corps avec elle et tâcher d'en épouser la loi intérieure. Du même coup, tombaient les contradictions où Christophe se débattait depuis longtemps, sans vouloir en convenir. Car, bien qu'il fût un pur artiste, il avait mêlé souvent à son art des préoccupations étrangères à l'art. Il lui attribuait une mission sociale. Et il ne s'apercevait pas qu'il y avait deux hommes en lui, l'artiste qui créait, sans se soucier d'aucune fin morale, et l'homme d'action raisonneur, qui voulait que son art fût moral et social. Ils se mettaient parfois l'un l'autre dans un étrange embarras. À présent que toute idée créatrice s'imposait à lui, comme une réalité supérieure avec sa loi organique, il était arraché à la servitude de la raison pratique. Certes, il n'abdiquait rien de son mépris pour le veule immoralisme du temps. Certes, il pensait toujours que l'art impur est le plus bas degré de l'art, parce qu'il en est une maladie, un champignon qui pousse sur un tronc pourri. Mais si l'art pour le plaisir est l'art mis au bordel, Christophe ne lui opposait pas l'utilitarisme plat de l'art pour la morale, ce pégase ongre qui traîne la charrue. L'art le plus haut, le seul digne de ce nom, est au-dessus des lois d'un jour. Il est une comète lancée dans l'infini. Que cette force soit utile, ou qu'elle semble inutile, même dangereuse dans l'ordre pratique, elle est la force, elle est le feu, elle est l'éclair jailli du ciel. Par là, elle est sacrée, par là, elle est bienfaisante. Ses bienfaits peuvent être, par fortune, même de l'ordre pratique. Mais c'est vrai, ces divins bienfaits sont, comme la foi, de l'ordre surnaturel. Elle est pareille au soleil dont elle est issue. Le soleil n'est ni moral ni immoral. Il est celui qui est. Il vint la nuit. Ainsi l'art. Alors Christophe, qui lui était livré, eut la stupeur de voir surgir de lui des puissances inconnues qu'il n'eût pas soupçonnées, tout autre que ses passions, ses tristesses, son âme consciente. Une âme étrangère, indifférente à ce qu'il avait aimé et souffert, à sa vie entière, une âme joyeuse, fantasque, sauvage, incompréhensible. Elle le chevauchait, elle lui labourait les flancs à coups d'éperon. Et dans les rares moments où il pouvait reprendre haleine, il se demandait, relisant ce qu'il venait d'écrire, « Comment cela a-t-il pu sortir de mon corps ?» Il était en proie à ce délire de l'esprit que connaît tout génie, à cette volonté indépendante de la volonté, cette énigme indicible du monde et de la vie, que Goethe appelait le démoniaque, et contre laquelle il restait armé, mais qui le soumettait. Et Christophe écrivait, pendant des jours, des semaines. Il y a des périodes où l'esprit, fécondé, peut se nourrir uniquement de soi, et continue de produire d'une façon presque indéfinie. Il suffit d'un effleurement, d'un pollen apporté par le vent, pour que lèvent les germes intérieurs, les myriades de germes. Christophe n'avait pas le temps d'y penser. Il n'avait pas le temps de vivre. Sur les ruines de la vie, l'âme créatrice régnait. Et puis, cela s'arrêta. Christophe sortit de là, brisé, brûlé, vieilli de 10 ans, mais sauvé. Il avait quitté Christophe, il avait émigré en Dieu. Des touffes de cheveux blancs étaient brusquement apparues dans la chevelure noire, comme ces fleurs d'automne qui montent des prairies en une nuit de septembre. Des rides nouvelles sabraient les joues, mais les yeux avaient reconquis leur calme et la bouche s'était résignée. Il était apaisé. Il comprenait maintenant. Il comprenait la vanité de son orgueil, la vanité de l'orgueil humain sous le poing redoutable de la force qui meut les mondes. Nul n'est maître de soi avec certitude. Il faut veiller, car si l'on s'endort, la force se rue en nous et nous emporte. Dans quels abîmes ? Où le torrent se retire et nous laisse dans son lit à sec. Il ne suffit même pas de vouloir pour lutter. Il faut s'humilier devant le Dieu inconnu, qui flat ubi vult, qui souffle quand il veut, où il veut, l'amour, la mort ou la vie. La volonté de l'homme ne peut rien sans la sienne. Une seconde lui suffit pour anéantir des années de labeur et d'efforts. Et s'il lui plaît, il peut faire surgir l'éternel de la boue. Nul, plus que l'artiste qui crée, ne se sent à sa merci. Car s'il est vraiment grand, il ne dit que ce que l'esprit lui dicte. Et Christophe comprit la sagesse du vieux Haydn, se mettant à genoux chaque matin avant de prendre la plume. Vigila et ora. Veillez et priez. Priez le Dieu, afin qu'il soit avec vous. Restez en communion amoureuse et pieuse avec l'esprit de vie. Vers la fin de l'été, un ami parisien qui passait en Suisse découvrit la retraite de Christophe. Il vint le voir. C'était un critique musical qui s'était toujours montré le meilleur juge de ses compositions. Il était accompagné d'un peintre connu qui se disait mélomane et admirateur, lui aussi, de Christophe. Ils lui apprirent le succès considérable de ses œuvres. On les jouait partout en Europe. Christophe témoigna peu d'intérêt à cette nouvelle. Le passé était mort pour lui. Ses œuvres ne comptaient plus. Sur la demande de son visiteur, il lui montra ce qu'il avait écrit récemment. L'autre n'y comprit rien. Il pensa que Christophe était devenu fou. Pas de mélodie, pas de mesure, pas de travail thématique. Une sorte de noyau liquide, de matière en fusion, qui n'est pas refroidi, qui prend toutes les formes et qui n'en a aucune. Ça ne ressemble à rien. Des lueurs dans un chaos. Christophe sourit. « C'est à peu près cela, dit-il, les yeux du chaos qui luisent à travers le voile de l'ordre. » Mais l'autre ne comprit pas le mot de Novalis. « Il est vidé, pensa-t-il. » Mais Christophe ne chercha pas à se faire comprendre. Quand ses hôtes prirent congé, il les accompagna un peu afin de leur faire les honneurs de sa montagne. Mais il n'alla pas bien loin. À propos d'une prairie, le critique musical évoquait des décors de théâtre parisien. Et le peintre notait les tons, sans indulgence pour la maladresse de leur combinaison, qu'il trouvait d'un goût suisse, tarte à la rhubarbe, aigres et plates, à la Haudelaire. Il affichait d'ailleurs, à l'égard de la nature, une indifférence qui n'était pas tout à fait simulée. Il feignit de l'ignorer. La nature, qu'est-ce que c'est que ça? Connais pas. Lumière, couleur, à la bonne heure. La nature, je m'en fous. Christophe leur serra la main et le laissa partir. Tout cela ne l'affectait plus. Ils étaient de l'autre côté du ravin. C'était bien. Ils ne diraient à personne, « Pour venir jusqu'à moi, prenez le même chemin. » Le feu créateur qu'il avait brûlé pendant des mois était tombé, mais Christophe en gardait dans son cœur la chaleur bienfaisante. Il savait que le feu renaîtrait. Si ce n'était en lui, ce serait dans un autre. Où que ce fût, il l'aimerait autant. Ce serait toujours le même feu. En cette fin de journée de septembre, il le sentait répandu dans la nature entière. Il remonta vers sa maison. Un orage avait passé. C'était maintenant le soleil. Les prairies fumaient. Des pommiers, des fruits mûrs tombaient dans l'herbe humide. Tendues aux branches des sapins, des toiles d'araignées, brillantes encore de pluie, étaient pareilles aux roues archaïques de chariots mycéniens. À l'orée de la forêt mouillée, le pivert secouait son rire saccadé, et des myriades de petites guêpes qui dansaient dans les rayons de soleil remplissaient la voûte des bois de leurs pédales d'orgue continuées profondes. Christophe se trouva dans une clairière au creux d'un plissement de la montagne, un vallon fermé d'un ovale régulier que le soleil couchant inondait de sa lumière. Terre rouge, au milieu, un petit champ doré, blé tardif et jonc couleur de rouille. Tout autour, une ceinture de bois que l'automne mûrissait. Hêtres de cuivre rouge, châtaigniers, blond sorbier aux grappes de corail, flamme de cerisier aux petites langues de feu, broussailles de myrtilles aux feuilles oranges, cédrat, brun, amadou brûlé, tel un buisson ardent. Et du centre de cette coupe enflammée, une alouette, ivre de grains et de soleil, montait. Et l'âme de Christophe était comme l'alouette. Elle savait qu'elle retomberait tout à l'heure, et bien des fois encore. Mais elle savait aussi qu'infatigablement, elle remonterait dans le feu, chantant son tirelire, qui parle à ceux qui sont en bas de la lumière des cieux.